L'expérience de la perte d'un proche nous concerne tous, mais selon les cultures, la conception de la mort et le rapport que nous entretenons avec le défunt sont très différents. Nos sociétés nous imposent de faire notre deuil, comme si l'on devait rendre nos morts invisibles. La psychologue et philosophe Vinciane Després s'est lancée dans une enquête originale sur la façon dont les morts peuvent interférer dans nos vies. Elle est l'invitée de la Tête au Carré avec la sociologue Gaëlle Clavandier pour parler de la question du deuil et donc de la place des morts dans notre existence. J'attendais maintenant vos messages et vos questions. Franceinter.fr et le mot-clé, l'attaque. Les orages de ce week-end dans le sud de la France, c'est à la une de la science. Aujourd'hui, Axel Villard, bonjour.
Bonjour, oui Mathieu. Nous allons tenter d'expliquer l'augmentation du nombre de désastres et de leurs conséquences dans ces régions. Comme tous les jours, nos invités et vos questions sur les réseaux.
Et c'est Stéphanie Texier qui réalise cette Tête au Carré, préparée aujourd'hui par Lucie Sarfati avec Margot Dullard.
La Tête au Carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Villard.
Au bonheur des morts, c'est donc le livre que vous signez, Vinciane Després, bonjour à vous.
Bonjour.
À vos côtés, Gaëlle Clavandier, bonjour.
Bonjour.
Vinciane Després, vous signez donc une enquête sur la façon dont les morts peuvent entrer dans nos vies. Accueillir la présence d'un défunt, est-ce que c'est l'exact contraire du travail de deuil pour vous ou pas?
En tout cas, c'est une version parallèle qui peut, à certains égards, contester le deuil, dans la mesure où le deuil serait dans ce cas-ci une prescription normative que les gens n'ont peut-être pas envie de suivre.
Ouais, la contestation du travail de deuil.
C'est ça, tout à fait.
Ouais, une notion dont on va parler évidemment avec vous dans un instant. Gaëlle Clavandier, le rituel funéraire a beaucoup changé aussi dans nos sociétés. Est-ce que les rites autour de la mort d'ailleurs disparaissent petit à petit ou pas?
C'est une question qui est absolument importante. Elle est en débat aujourd'hui dans la communauté scientifique et ce sont les professionnels de la mort aujourd'hui qui organisent cette ritualité et nous en discuterons dans quelques minutes.
Allez, tous ces thèmes donc dans le dossier de la Tête au Carré avec les messages, les témoignages des auditeurs qui nous rejoignent sur franceinter.fr. Et à la une de la science, avant d'aborder notre sujet de une et de revenir donc sur les violents orages de ce week-end, eh bien nous accueillons désormais comme tous les lundis Hervé Kempf pour le site Reporter, le quotidien de l'écologie. Bonjour Hervé.
Bonjour Mathieu.
On fait d'abord avec vous un petit tour de l'actualité climatique. Qu'est-ce qu'il faut retenir justement en vue de la COP21, Hervé, aujourd'hui?
Eh bien, un week-end très intense à Créteil, près de Paris, avec la coalition Climat 21 qui réunit plus de 150 associations françaises et internationales qui vont se mobiliser pour la COP21, environnementalistes mais aussi généralistes et syndicats en font partie. Ils ont notamment décidé l'organisation de deux grandes journées importantes, le dimanche 29 novembre à Paris et dans beaucoup d'autres villes, mais à Paris ça sera vraiment un défilé très important, et une action de mobilisation le dernier jour de la COP, ça sera le samedi 12 décembre. Et puis il y a la société civile, on a parlé des associations, des écologistes, des syndicats, des citoyens. Il y a aussi des entreprises qui font partie de la société civile, on peut le dire. Elles se réunissent dans Solutions 21 et elles ont annoncé et présenté leur programme où elles présenteront toutes les solutions, les leurs, au Grand Palais pendant la durée de la COP. Imaginez que les solutions vues par les citoyens et Coalition Climat 21 et vues par Solution 21 ne sont pas exactement les mêmes.
Ouais, donc voilà pour les informations à retenir en vue bien sûr de la conférence sur le climat et à la une de la science. Donc nous revenons aujourd'hui sur les événements dramatiques survenus ce week-end dans le Var suite aux très fortes précipitations.
Le Rioux, qui se trouve juste derrière nous à une centaine de mètres, a débordé largement avec une précipitation qui est à peu près 200 mètres cubes seconde en l'espace d'une heure et demie, une heure trois quarts. Donc ça s'est passé en deux vagues. Ce sont des vagues qui se sont engouffrées dans les parties les plus basses, en l'occurrence les garages.
Voilà Henri Leroy, le maire de Mandelieu et de Lanapoule. Quel regard la science peut-elle apporter justement sur ces catastrophes? L'urbanisation, le réchauffement climatique ou la montée des eaux qui sont les responsables des morts et des dégâts aujourd'hui, donc après ces événements. Bonjour Jean-Claude Marcus.
Bonjour.
Vous êtes administrateur de l'Association française du sol. Alors Hervé Kempf, de plus en plus souvent lors de catastrophes comme celle de ce week-end, on invoque le réchauffement climatique. À raison ou à tort selon vous?
À tort si on l'affirme brutalement, à raison si on y réfléchit. Mais les climatologues sont extrêmement précis, ou plus exactement prudents. Ils sont précis et prudents. Ils disent, nous n'avons pas de statistiques suffisamment robustes sur 30 ans pour pouvoir affirmer que les événements de ce week-end sont une première manifestation du changement climatique. Cependant, il y a une étude très importante sous la coordination du grand climatologue Jean Jouzel qui a été publiée cette année. Il y a notamment un grand rapport sur les effets du changement climatique sur les régions de France. Et ce qu'expliquait ce rapport, c'est qu'à la fin du XXIe siècle, les résultats montrent un renforcement des taux de précipitations extrêmes, notamment sur les régions d'influence méditerranéenne. Donc il va se passer des choses en Méditerranée, il y aura des précipitations extrêmes, mais vous l'avez bien noté, pour l'instant les scientifiques peuvent dire à la fin du XXIe siècle, ils n'affirment pas aujourd'hui que c'est le cas.
Axel.
Mais Jean-Claude Marcus, selon vous, il faut chercher ailleurs que dans les données climatiques ou météorologiques pour comprendre les événements de ce week-end.
Alors, déjà, je voudrais saluer Hervé Kempf, mais apporter un petit complément. Ce sont les mêmes facteurs qui sont des facteurs humains ou des actions humaines qui ont conduit à ce qu'on appelle une catastrophe qui est tout sauf naturelle, qui font également partie des facteurs qui entraînent le changement climatique. En gros, pour faire simple, l'artificialisation et l'imperméabilisation des sols contribuent très fortement au changement climatique pour deux raisons. La première, que tout le monde oublie mais qui est la plus importante, c'est que notre principal puits à carbone, ce sont les sols. Et la deuxième raison, c'est que toute artificialisation, toute imperméabilisation va attirer des activités qui, elles, à leur tour, sont fortement émettrices de gaz à effet de serre.
Et selon vous, l'imperméabilisation a un rôle direct sur ce qui s'est passé dans ces inondations ?
Alors il n'y a aucun doute là-dessus. D'ailleurs, Hervé Kempf a publié dans Reporter deux photographies de l'Institut Géographique National. Une photographie qui est prise en 1961. Il s'agit bien du delta d'un fleuve, puisque la Brague est un fleuve qui se jette dans la mer. Et on voit que ce delta n'est occupé que par des petites parcelles agricoles avec beaucoup de prairies permanentes. Et que la Brague elle-même a un cours avec des méandres qui la freinent et une ripisylve, c'est-à-dire une forêt, le long de ses rives qui la freine aussi. Et par conséquent, il est tout à fait clair que ce fleuve est appelé à déborder assez régulièrement. 50 ans, un siècle, c'est très peu pour de l'histoire géologique ou géographique. Et donc, cette occupation du sol met à l'abri les hommes qui sont peu nombreux et leurs biens, et parce que leurs constructions également sont très peu nombreuses, les font habiter à l'étage, et on a prévu évidemment des refuges pour les bêtes. Et puis, on regarde la même photo aujourd'hui, et alors là, on est terrifié. Parce que toutes ces petites parcelles sont devenues des lotissements. Sur chacun de ces lotissements, il y a une petite maison à la provençale, donc en général sans étage, équipée pour beaucoup d'une piscine. Les haies qui étaient très importantes ont disparu au profit de murets. Et tout ça est desservi par des petites routes goudronnées. Et évidemment, chaque habitant s'est dépêché de bétonner ou de bitumer autour de sa maison. Ce qui fait que ce qui aurait pu absorber l'eau, ce qui aurait pu retenir son écoulement, ce qui aurait pu également éviter les torrents de boue, et puis, en même temps que la boue, d'ailleurs, on a les hydrocarbures, eh bien, tout cela a disparu en l'espace d'un demi-siècle, c'est rien du tout, et une zone qui était connue pour être inondable, c'est un peu de la mauvaise foi de dire qu'elle ne l'est pas, ça n'est pas parce qu'elle a été construite qu'elle n'est pas restée inondable, eh bien, a été en grande partie emportée par des torrents de boue, lesquels étaient absolument prévisibles.
Alors Hervé Kempf, cette urbanisation que décrit Jean-Claude Marcus, elle n'est pas propre au sud de la France, hein, quand même, il y a une pression sur l'ensemble du territoire.
Il y a une pression sur l'ensemble du territoire, qui est bien documentée par une enquête qui a lieu tous les 7 ans, qui s'appelle Terruti, sous l'égide du ministère de l'Agriculture. Ceci dit, ce que l'on sait aussi, c'est que les zones littorales sur toute la France subissent la pression urbaine maximum, principale, et que le sud-est de la France et la Côte d'Azur a aussi subi une urbanisation très importante, dont l'exemple qu'a rappelé Jean-Claude Marcus sur la Brague est tout à fait significatif. Alors, on n'a pas de données aussi précises sur les Alpes-Maritimes, mais sur le Var, qui a été très étudié, qui est le département voisin et qui est très semblable de ce point de vue-là aux Alpes-Maritimes, et qui d'ailleurs a subi aussi l'année dernière, rappelons-le nous, des précipitations extrêmement importantes, avec aussi des conséquences des disparus, des morts. Il y a eu là une urbanisation extrêmement importante qui a augmenté de 43% en 30 ans. Et il y a eu un rapport parlementaire, notamment du sénateur Pierre-Yves Collombat, et qui dit « Toute cette urbanisation s'est faite sans aucune prise en compte du risque d'inondation.
» Jean-Claude Marcus, dans quelle mesure le mot « catastrophe naturelle » peut s'appliquer encore à ce niveau-là, vos explications?
Bon, je vais essayer d'être clair et vous m'arrêterez si ça n'est pas le cas.
Et pas trop long, s'il vous plaît.
Le risque, ce n'est rien autre chose que l'aléa multiplié par la vulnérabilité. Alors, l'aléa, lui, il ne dépend pas de nous. Et par conséquent, si on regarde sur plusieurs siècles, la probabilité pour que le phénomène météorologique se produise existe. Et la probabilité pour que la brague se déverse avec ce volume d'eau dans la mer existe. Mais si nous avions toujours un delta, car c'est un delta, si nous avions toujours un delta, eh bien nous aurions eu extrêmement peu de dégâts et, pour ainsi dire, pas de catastrophe. C'est vieux, comme les discours, les échanges entre Rousseau et Voltaire sur le tremblement de terre de Lisbonne. En revanche, ce qui a beaucoup changé les choses, ce sont les constructions humaines. Et la vulnérabilité des maisons qui se sont installées là, elle est totalement d'origine humaine. Mmh. Donc quand bien même nous parlerions de catastrophe, elle n'est absolument pas naturelle. C'est une catastrophe issue de l'amnésie de ceux qui ont construit sur une zone inondable. Et donc on remarque à cette occasion que, évidemment, une bonne partie de notre histoire, la partie la plus malheureuse, se construit à partir de l'amnésie des hommes.
Voilà, donc responsabilité humaine très claire, en tout cas, hein, dans ces événements, ces inondations meurtrières sur la Côte d'Azur, donc ce week-end. Hervé Kempf, dans Reporter, justement, vous consacrez un long article sur ce qui s'est passé.
Oui, tout à fait, et avec les liens et vers les documents et les analyses. Un mot pour finir, si vous me permettez, très rapidement. Maintenant, l'analyse est là. Il faut en tirer les conclusions et donc arrêter d'urbaniser à grande échelle. Je pense par exemple à un projet mené par la mairie de Nice sur la plaine du Var, un projet qui s'appelle Eco-Vallée. Eh bien, ce projet, il faut le remettre en cause parce qu'il va encore artificialiser des terres agricoles.
Et reporter.net pour justement lire cet article. Merci beaucoup à vous trois. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, d'abord bien sûr le prix Nobel de médecine qui récompense les efforts pour le traitement des maladies parasitaires. La chinoise Yu Youtu est primée pour ses découvertes concernant le paludisme et la création d'un traitement à base d'extrait d'ambroise naturelle. L'autre moitié de ce Nobel revient à William Campbell et Satoshi Omura, récompensés ensemble pour leur découverte d'un traitement pour les infections causées par des vers parasites. Les maladies provoquées par les parasites ont un fléau pour l'humanité depuis les millénaires et constituent un problème de santé mondiale considérable, a précisé le jury du Nobel. 19 pays de l'Union européenne demandent l'interdiction des OGM. Après des années de complications juridiques, c'est une véritable révolution administrative. Grâce à une directive européenne, les États membres de l'Union peuvent désormais réclamer l'interdiction des cultures des OGM sur leur sol. Les membres avaient jusqu'au 3 octobre pour exprimer leurs vœux sur le sujet. 19 pays dont la France, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Grèce, l'Autriche, la Hongrie, la Pologne ont donc formulé une demande d'arrêt des OGM à la Commission européenne. Et puis pour finir, Apollo en haute définition, c'est maintenant possible dans le cadre du projet Apollo Archive. Le service d'archives de la NASA a mis en ligne plus de 8400 images des programmes Apollo prises par des astronautes américains. Quelques-unes de ces photos capturées à la surface de la Lune et dans les capsules étaient déjà disponibles en ligne à basse résolution. Mais les clichés sont donc visibles sur le site Flickr. Un lien vers ces images est disponible sur la page Facebook de La Tête au Carré et sur notre compte Twitter. Quelle place pour nos morts ? C'est le dossier de l'émission dans un instant.
Running out of hope that day, I was running.
Terracotta Heart avec Blur à l'instant sur France Inter.
La tête au carré sur France Inter.
Au bonheur des morts, le récit de ceux qui restent. Ce livre paraît aux éditions de La Découverte. Vous en êtes l'auteur, Vincent Després. Vous êtes psychologue et philosophe, maître de conférence au département de philosophie de l'Université de Liège en Belgique. Et puis à vos côtés, Gaëlle Clavandier. Vous êtes maître de conférence en sociologie à l'Université Jean Monnet de Saint-Étienne. Et puis vous êtes à Lyon également.
Chercheur au Centre Max Weber.
Et vous avez publié en 2009 Sociologie de la mort chez Armand Collin. Les témoignages, les réactions, les mails des auditeurs nous parviennent déjà sur franceinter.fr. Et puis le mot-clé, l'attaque. Vincent Després, une jolie couronne, très bigarrée hein, à la couverture, sur la couverture de votre livre. C'est compliqué d'illustrer justement un thème comme celui-là ?
Oui, c'est très compliqué parce qu'il fallait faire... C'est très compliqué parce qu'il fallait plutôt faire dans l'allusif ou dans l'évocation.
Ouais.
Et moi, je suis vraiment très heureuse de cette couverture parce qu'elle dit quelque chose qui est de l'ordre de la joie, qui est de l'ordre de la reprise de la vitalité. Et c'est ce que j'ai pu découvrir dans mon enquête.
C'est ça, au bonheur des morts, justement, on aura l'occasion d'en reparler avec vous. Alors d'abord, c'est une enquête, effectivement, que vous avez commencée il y a plusieurs années. Et puis en 2007, donc, vous le racontez, vous avez décidé de vous soumettre à une contrainte, celle de vous laisser guider et instruire par le récit des gens. Et ce travail, c'est devenu également une expérience. Expérimentation sur vous-même.
Oui, tout à fait. En fait, j'ai jamais réellement commencé l'enquête à proprement parler, peut-être même qu'aujourd'hui je pourrais le dire. C'est-à-dire que chaque fois que les gens me demandaient « Tiens, sur quoi tu travailles ?» comme ils arrivent souvent à nous universitaires, je répondais « Mais j'ai très envie de travailler sur les relations entre les vivants et les morts, parce que j'ai remarqué que c'est beaucoup plus vivant, beaucoup plus actif que ce que je n'imaginais. » Et quand je disais ça, les gens me disaient « Ah, c'est marrant que tu dises ça, parce que moi j'ai une histoire, moi avec ma grand-mère ou bien mon grand-père avec sa fille disparue, etc. » Et j'ai remarqué que j'arrivais à récolter plein d'histoires sans même commencer cette enquête. Et puis, il n'y avait pas de cadre à cette enquête, évidemment, puisqu'elle ne commençait pas.
Ouais.
Et en 2007, je me suis dit, mais j'ai remarqué que les gens me racontaient non seulement des histoires magnifiques, des histoires extrêmement intelligentes et bien construites, mais qu'en plus, ils avaient des conseils à me donner que je n'aurais jamais... me disait de lire des choses, de voir des choses que j'aurais jamais faites s'il s'était agi de suivre une enquête normale et académique. Va voir telle série, lis tel roman, va voir tel film, va chez les spirites.
Et vous avez fait ça vraiment ?
Alors je me suis rendu compte que non seulement c'était très intéressant alors que j'avais pas tellement l'habitude de suivre les conseils des gens, mais là je me suis dit tout compte fait, je vais le faire à la Sophie Cal. Donc je vais m'engager jour pour jour à partir de septembre 2007 jusqu'à septembre 2008, tout ce que les gens me diront de faire, si je sens qu'ils ont bien compris ce que je voulais.
C'est ça.
Je vais le faire et j'ai tout noté dans un agenda et j'ai suivi tous les conseils à la lettre.
Ouais. Gaëlle Clavandier, qu'est-ce que vous pensez de cette méthode ? Alors vous qui êtes scientifique, sociologue donc de cette question entre autres.
Oui, mais je la trouve très intéressante parce qu'il faut rester ouvert à toutes les opportunités quand on travaille sur de tels terrains et ne pas figer nos terrains de recherche. Je suis entièrement d'accord sur le projet.
Vincent Després, il y a un autre personnage. Il y a au fond deux histoires dans ce livre. Il y a une histoire d'héritage personnel, d'une histoire qui vous a été léguée par votre père autour de Georges. Vous allez me dire qui c'est. Et puis il y a donc tout le travail aussi de recueil, précisément, d'informations et témoignages sur la mort. Qui est Georges ?
Alors Georges, c'est mon grand-oncle qui est décédé à l'âge de 14 ans, à une date que j'ai dû découvrir. En fait, c'est une histoire que mon père me racontait très souvent. Il me disait, mon propre père, disait-il, Raymond, on va dire un prénom pour être sûr que tout le monde s'y retrouve, était orphelin. Il me disait-il, vers l'âge de 3-4 ans, il a perdu ses parents qui sont morts de chagrin. Et pourquoi sont-ils morts de chagrin ? Parce que le père de mon grand-père donc a accompagné son fils à la gare, qui disait mon père partait un camp scout. Et ils sont arrivés à la gare et le père a dit à son fils, « Oh, regarde, le train précédent est encore à quai, prends-le. » Et le fils a pris le train, il était adolescent, et le train a déraillé. Et l'enfant est mort. Et les parents seraient morts de chagrin quelques mois après, tous les deux, laissant 12 orphelins. Donc ils avaient 13 enfants, ils laissaient 12 orphelins. Et mon père me racontait cette histoire très très souvent. Et à la mort de mon père, je me suis dit, mais tiens, mon père m'a légué cette histoire.
Parce
qu'il n'avait pas raconté à
vos sœurs. À vos sœurs, c'est ça. Vous avez été vraiment dépositaire de cette histoire.
Et ma mère n'était pas trop au courant non plus. Alors j'ai demandé à ma mère de m'aider à mener une enquête, essayer de retrouver des traces de cet accident. Et je pensais qu'en menant cette enquête, je comprendrais peut-être pourquoi qu'est-ce que mon père a voulu que je fasse avec cette histoire et pourquoi me la racontait-il à moi et qu'est-ce qu'il voulait que cette histoire devienne. Et j'ai mené une enquête en élucidant tranquillement les conditions de la mort de cet enfant et de ses parents, je vais peut-être comprendre ce que mon père attend de moi.
Ouais. Donc il y a vraiment des ramifications aussi sur toute la famille, hein. C'est ce qu'on découvre même avec votre propre fils, hein. Vous avez des échanges autour de cette histoire.
Par exemple, on a fait le même
histoire.
Rêve, le jour anniversaire de la date de la mort du grand-oncle en février, je rêve de train. Et je téléphone à mon fils qui habitait Lyon à ce moment-là, et je lui dis, je vais te raconter mon rêve, c'est vraiment très bizarre, et il me dit, attends, j'en ai fait un formidable. Et il avait rêvé de train, et un rêve absolument fantastique. Et on a réalisé à ce moment-là qu'on était le jour de l'anniversaire de la mort du grand-oncle, en disant peut-être que les rêves sont plus collectifs qu'on ne le pense.
Oui. Alors ça, c'est quelque chose qui peut troubler aussi dans le cadre d'un travail universitaire et philosophique, c'est que précisément, vous livriez cette partie de vous-même, cette intimité au fond de votre histoire familiale.
Alors c'est une intimité, mais qui est une intimité relativement lointaine malgré tout. Alors, il y a plusieurs raisons de le livrer. D'abord parce que c'est une énigme qu'elle me met au travail. Il y avait aussi une autre raison. Vous savez, il n'est pas nécessaire d'avoir perdu quelqu'un pour pouvoir comprendre ce que c'est que perdre quelqu'un. Parce qu'en fait, tous, on a connu au moins quelqu'un, et peut-être même en naissant, on connaît quelqu'un qui a perdu quelqu'un. Et donc la perte n'a pas besoin d'être directe. Nous avons des parents qui ont perdu soit des parents, soit des frères, soit des sœurs. Mmh. Et je pense que nous sommes tout le temps en contact avec cette perte, du fait que nous connaissons des gens et que nous aimons des gens qui eux-mêmes ont perdu quelqu'un.
Gaëlle Clavandier, qu'est-ce qu'on étudie exactement lorsqu'on est sociologue de la mort? Alors, parce que c'est quand même très vaste comme sujet.
Oui, vous imaginez bien qu'on va travailler sur un certain nombre de terrains. En l'occurrence, les terrains qui sont les miens sont des terrains autour des catastrophes collectives. Et actuellement, je mène un travail avec un collègue, Philippe Charrier, sur le devenir des corps des enfants sans vie. Donc c'est vrai que... Pour ma part, c'est essentiellement la question du corps qui me tient en éveil.
Et la mort collective, qu'est-ce qu'on doit en comprendre, en tout cas comme ça?
Alors moi, la question que je me posais, c'est justement pour faire écho à ce que disait votre collègue tout à l'heure, l'idée était de ne pas partir sur une notion telle que la notion du risque, qui est une notion absolument abstraite, mais de partir sur les arrangements sociaux à partir de catastrophes collectives. Comment prend-on en charge les corps? Quels liens vont émerger, notamment par les collectifs d'associations de familles. Donc c'est vraiment sur les aspects pratiques aussi que nous travaillons, nous sociologues, et pas simplement sur des concepts très, très généraux. Bon, mais évidemment...
Vous avez sorti un ouvrage sur la question en 2004, hein, en travaillant sur des catastrophes ayant eu lieu en France, principalement une vingtaine.
Oui. Alors, sur les terrains en question, c'est vrai que je souhaitais être à la fois dans une approche diachronique, donc historique, et sur une approche synchronique pour voir s'il y avait justement une dimension rituelle ou si, des types de prise en charge en fonction des périodes, et à la fois voir si le regard avait peu bougé en fonction des périodes. Donc c'est voilà pour les catastrophes collectives. Mais la question qui a été posée tout à l'heure était très intéressante sur la question de la naturalité des catastrophes. Et ça, c'est une question que l'on se pose en tant que sociologue, puisque de mon point de vue aujourd'hui, en travaillant sur ces sujets-là, il n'y a plus de catastrophes naturelles. C'est le regard qu'ont les hommes sur ces catastrophes qui fait sens.
Et on voyait la responsabilité humaine, évidemment, dans les inondations de la Côte d'Azur. Vincent Després, dans nos cultures, les morts n'auraient plus de destin aujourd'hui, c'est l'inexistence. Le néant qui domine vraiment, est-ce que c'est ça au fond qui caractérise la façon, notre relation à la mort?
Alors ça, ce serait la version officielle et la version à laquelle moi-même je croyais en me disant, mais en fait, on est devenu une culture extrêmement rationnelle, donc les gens ont accepté les prescriptions de rationalisation qui sont, une fois que les morts sont morts. Et c'est en menant cette enquête que je me suis rendu compte qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui n'adhèrent pas à cette conviction officielle et qui, à titre privé, vont continuer à entretenir des relations avec leurs défunts, quelle que soit l'étendue de ce qu'on peut appeler relation. Ça peut être simplement, je porte les chaussures de ma grand-mère afin qu'elle continue à arpenter le monde, qui est une façon de continuer d'une certaine manière une relation, à des « moi je sens des présences de présence », disent certaines personnes, où j'ai l'impression que ma mère ou ma sœur ou mon frère sont encore là et je leur parle et par moments je peux même faire des choses pour eux, ou bien j'ai connu quelqu'un par exemple qui chaque année à l'anniversaire de son épouse défunte faisait un repas, le repas qu'elle préférait pour honorer sa mémoire et manger avec les enfants qu'ils avaient eu ensemble. afin de fêter son anniversaire. Et j'ai trouvé des choses absolument magnifiques qui sont de l'ordre du rituel privé, improvisé, parfois plus collectif, et qui m'ont témoigné à la fois du fait que les gens avaient résisté à la conception officielle de rationalisation et disparition des morts, et à la fois qu'ils étaient tout le temps en train d'essayer d'inventer des modes relationnels.
Oui, Gaëlle Clavandier, est-ce qu'il y a une négation aujourd'hui même au fond de la mort ou pas ?
Mais en fait, je pense pas. Il y a des prescriptions qui existent, et notamment sur la question du deuil, et des prescriptions qui sont assez fortes, notamment de dire que le deuil est une expérience existentielle majeure et qu'il faudrait la traverser pour soi et en soi, alors même que ça suppose des arrangements pratiques avec autrui, notamment l'entourage familial, on l'a très bien vu tout à l'heure, et un certain nombre de préconisations sociales. Et je pense qu'il y a un décalage aujourd'hui parce que on a tendance à être sur des temporalités qui sont extrêmement prescrites, plurielles, alors même que les rituels funéraires, évidemment, scandait le temps, hein. Il y avait aussi une scansion du temps, mais sur des territoires qui étaient assez différents, notamment les funérailles, la question du port du deuil et justement de la trajectoire à la fois de l'individu, mais aussi la trajectoire du défunt. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est le grand oublié, c'est le défunt, puisque quand on parle d'expérience existentielle majeure, on pense pour la personne qui vit le deuil. On ne pense pas, en fait, pour le défunt qui lui aussi chemine en un sens. Et ce que vous disiez tout à l'heure, Vinciane, au sujet des anniversaires, tout cet aspect aussi de commémoration et sur des moments clés, les rituels funéraires, l'organiser tout à fait simplement. Et l'idée...
Oui, je vous en prie.
Non, c'est ce qui choque aujourd'hui, c'est que ces rituels funéraires étaient aussi prescriptifs, prescriptifs dans le sens où les gens devaient conduire des actions, mais n'adhéraient pas forcément d'un point de vue personnel à ces actions-là. Et ça, je trouve ça absolument passionnant.
On y reviendra avec vous dans un instant.
C'est un point très intéressant. Ça, c'est que, en fait, ces rituels disaient aux gens ce qu'ils devaient faire pour agir et ne leur disaient pas ce qu'ils devaient penser. Et c'est pour ça que je trouve qu'ils étaient intéressants.
Tout à fait.
Si tu savais mon cœur, rien. Si tu savais mes yeux, rien. Si tu savais mes mains, rien. Si tu savais mes reins, rien. Si tu savais mes jambes, rien. Si tu savais ma peau, rien. Si tu savais mes cris, rien. Si tu savais mes nuits, rien. Mais si seulement tu savais la taille de mon âme. Hennissement d'un cheval galopant. C'est littéralement qu'il faut le prendre. On ne vit pas suffisamment. Précisément, désespérément, je suis le roi du rock. Perfecto, tout de noir vêtu. Blanches sont mes vertus. La vie te descend, pam, pam. Eux te disent va de l'avant. Je ne veux pas, je ne peux pas, je ne sais pas vivre. Le règne glorieux de sa majesté les mouches. S'ils n'entendent pas qu'ils aillent se faire. Mon cœur déjà bat à rebours. La vie dure un hennissement d'un cheval galopant. C'est littéralement qu'il faut le prendre. On ne vit pas suffisamment. Précisément, désespérément, je suis le roi du rock. Perfecto, tout de noir vêtu. Blanches sont mes vertus. Cette vie est écœurante. Pourquoi m'as-tu mise au monde, maman? Je ne crois plus, je ne vois plus. Comment me souvenir que l'homme est bon, ma résurrection sous les auspices d'Aragon. Que l'homme est con, la poésie ne mène qu'au panthéon. La vie dure un hennissement d'un cheval galopant. C'est littéralement qu'il faut le prendre, on ne vit pas suffisamment. Précisément, désespérément, je suis le roi du rock. Perfecto, tout de noir vêtu. Blanches sont mes vertus. La vie te descend, eux te disent va de l'avant. Je ne veux pas, je ne peux pas, je ne sais pas vivre. Le règne glorieux de sa majesté les mouches. S'ils n'entendent pas qu'ils aillent se faire. Mon cœur déjà bat à rebours. La vie dure un hennissement d'un cheval galopant. C'est littéralement qu'il faut le prendre. On ne vit pas suffisamment. Précisément, désespérément, je suis le roi du rock. Perfecto, tout de noir vêtu. Blanches sont mes vertus. Thank you.
savais mon cœur, rien. Si tu savais mes yeux, rien. Si tu savais mes mains, rien. Si tu savais mes reins, rien. Si tu savais mes jambes, rien. Si tu savais ma peau, rien. Si tu savais mes cris, rien. Si tu savais mes nuits, rien. Mais si seulement tu savais la taille de mon âme.
Abdelmanik à l'instant sur France Inter. Au bonheur des morts, c'est donc un livre qui paraît aux éditions de La Découverte, signé Vinciane Després. Elle est notre invitée, avec également la sociologue Gaëlle Clavandier. Vos messages qui arrivent, vos témoignages, franceinter.fr.
Vous savez, l'histoire que l'on m'a racontée sur vous, la mort de votre femme, tout cela m'a beaucoup impressionnée. Et ensuite, chaque fois que je pensais à la mort de mon père, ma pensée me conduisait vers vous.
Oui, nous avons eu la même expérience, c'est pourquoi nous aimons les morts. Nous ne voulons pas qu'on les oublie. Nous n'acceptons pas qu'on les trahisse. Nous sommes pareils.
Non, nous ne sommes pas pareils. C'est vrai, j'aime les morts, je les respecte. Mais j'aime aussi les vivants. Écoutez, quelqu'un meurt, un enfant vient au monde. De nouveaux amis peuvent remplacer ceux qui ont disparu, c'est le mouvement naturel de la vie. Un homme adore sa femme, il a le malheur de la perdre. Eh bien, je pense qu'il est normal qu'il vive un deuxième amour. C'est naturel.
Voilà, il y a plein de choses qui sont dites dans cet extrait de La Chambre verte de François Truffaut avec la voix de Nathalie Baye que vous avez certainement reconnue, Vinciane Després. La disparition de quelqu'un, c'est ce que vous dites aussi, hein, c'est une réorganisation au fond de toute la cellule familiale et sociale autour de cette personne. Ça redistribue les cartes et c'est une place aussi pour la personne qui reste à reprendre.
Tout à fait. C'est la première chose d'ailleurs qu'on va constater, c'est que les morts vont poser des questions géographiques, pas du tout des questions temporelles. Et la première chose qu'on va faire d'ailleurs, c'est lui trouver une place. C'est-à-dire qu'il n'est plus là. Quelle place va-t-on lui donner? Et si, d'ailleurs, on remarqua que les morts qui n'ont pas de place, ils reviennent dans les rêves de manière très insistante, souvent pour réclamer cette place. Et puis les relations vont être reconfigurées parce qu'il y a des tas de métamorphoses qui vont se passer quand vous perdez par exemple votre père ou votre mère. Alors certains diront, mais on appartient à la génération casse-pipe, après on vient, ouais. On vient en première ligne, ou puis on peut le dire plus joliment comme le plasticien Patrick Corillon qui avait dit tiens, il n'y a plus personne au-dessus de moi maintenant, quand il avait perdu ses parents. Et de toute façon, votre propre place est interrogée, et je pense que c'est vraiment la question des métamorphoses qui se passent, et des métamorphoses conjointes des vivants et des morts.
Ouais, ce qui est très troublant au fond dans la lecture aussi de votre ouvrage, c'est que vous donnez une place très présente à la personne qui est morte. Vous venez de le dire à l'instant, la personne décédée réclame sa place.
Oui, c'est en entendant les témoignages des personnes que j'ai fini par apprendre moi-même à parler à la voix active et parfois moi-même au présent des morts, simplement parce que je m'alignais à la façon dont les personnes m'ont raconté des histoires, parce que j'ai remarqué que cette façon de parler, d'une certaine manière, réinsufflait toute la vitalité que les personnes souhaitaient mettre dans l'histoire qu'elles continuaient et dont elles décidaient le prolongement.
Oui, Gaëlle Clavandier, il y a cet espace effectivement à reprendre aussi pour ceux qui restent.
Oui, et puis sur cette question de la localisation, c'est vrai que vous venez de le dire avec beaucoup d'émotion et d'empathie, mais il y a aussi la dimension légale et réglementaire, c'est-à-dire que les morts ne peuvent pas être partout et nulle part, et que la destination quasi obligatoire pour les défunts, c'est le cimetière. Et c'est vrai que là, pour le coup, les arrangements sont assez minces, c'est-à-dire qu'on a coutume de dire aujourd'hui que les morts sont dans le cœur des vivants, certes, mais leur corps est aussi doit être à une place, et notamment le cimetière.
Thierry nous dit ceci, ma femme est morte à 65 ans, nous vivions 24 heures sur 24 ensemble, je sais que je ne pourrai jamais plus avoir pour quelqu'un des sentiments identiques, elle est gravée en moi, pour autant, je vis, je suis disponible à qui s'offre à moi parfois une petite larme, c'est une trace que je partage avec elle et ne m'empêche pas de partager avec d'autres, c'est ce qui était évoqué également dans l'extrait du film, hein. C'est la vie après aussi, comment on se recompose.
C'est la vie après, et ce sont des choses que j'ai souvent rencontrées, c'est que il y a à un moment donné, les gens disent, il faut les laisser partir. C'est-à-dire, il faut simplement qu'ils permettent de retrouver suffisamment d'espace pour reprendre le fil de la vie. Alors, il y a par exemple quelque chose qui est très joli, que j'ai entendu très souvent. Ce sont des rêves où le mort vient dire au vivant, il faut que tu cesses de pleurer maintenant, parce qu'en pleurant, tu m'entraves. Et tu m'obliges à rester, et tu m'empêches de me libérer, ou bien tu me fais me sentir coupable. Et ce sont des rêves qui sont extrêmement fréquents, et que j'ai rencontrés non seulement chez nous aujourd'hui, mais que j'ai rencontré dans d'autres cultures et même dans notre propre histoire. Pierre-Olivier Dittmar, par exemple, les cite, ce sont des rêves qu'il rencontre au Moyen-Âge. Jean-Marie Lemaire, le psychiatre, l'a rencontré, quant à lui, dans des cliniques en Algérie. Et une de mes étudiantes l'a récolté auprès d'une de ses amies libanaises en 2010, après qu'elle ait perdu son frère dans un accident d'avion. Il est venu dans le rêve d'une inconnue qui les a cherchés pour dire « il faut cesser de pleurer maintenant ».
Mais c'est dans les deux sens aussi. C'est-à-dire que le vivant peut aussi s'adresser dans un rêve à la personne qui est partie pour lui dire « cesse de me visiter
hein. ». Tout à fait, oui, tout à fait. Elles peuvent, j'ai une amie dont le mari la visitait régulièrement pendant la nuit et elle a fini par lui dire « eh bien, écoute, c'est trop difficile la manière dont tu fais, ou bien tu es vivant ou tu es mort, mais tu ne restes pas comme ça dans un autre deux ». Et le fait qu'elle lui demande ça, il a cessé de venir la hanter dans les rêves.
Alors, c'est vrai que traditionnellement, le cheminement des morts et des vivants est parallèle et conjoint, c'est-à-dire que ce cheminement, ils le font ensemble, certes dans des lieux où on vient de le voir différents, mais c'est quelque chose qui n'est plus pensé aujourd'hui. Donc c'est vrai que les individus peuvent reconstruire cela à leur échelle, recomposent, essayent de s'arranger avec ces questions, mais ça n'est pas véritablement pensé.
Et c'est dommage, parce qu'on voit ce compagnonnage, au fond, entre le défunt et le vivant, et ça c'est une belle façon aussi de poursuivre la vie, non ?
Tout à fait, c'est absolument passionnant, et ça m'amène aussi, je pensais dans la conversation tout à l'heure, aux personnes qui partent sans proches. Et je pensais notamment au SDF. Et on a un certain nombre d'associations, comme les Morts de la Rue aujourd'hui, qui accompagnent ces personnes à trouver leur place, alors même qu'ils ne pouvaient ne pas avoir de place de leur vivant. Et on sent que c'est une préoccupation d'un certain nombre de nos contemporains, mais ça n'est évidemment pas la majorité.
Il y a eu un très beau film sur cette question qui est passé inaperçu, alors que c'est un véritable ovni, d'un réalisateur anglais qui s'appelle Hugo Pasolini, et ça s'appelait Still Life. Et on voit un emploi de l'administration anglaise qui doit se charger de retrouver les familles des personnes qui meurent visiblement seules et qui va se charger, ne retrouvant pas les familles dans certains cas, de lui-même composer un hommage au défunt en devant chercher dans la vie du défunt qu'est-ce que je peux en dire. Et c'est un film d'une tendresse, d'une sobriété qui est absolument bouleversant.
Eh bien, on va suivre vos conseils. Comme vous l'avez fait avec ceux qui vous ont raconté beaucoup d'histoires, Vinciane Després, ça vous a ouvert vraiment beaucoup d'horizons, hein, véritablement. Il y a ce courriel de Françoise qui nous dit ceci, j'ai fait un travail sur la perte de mon enfant il y a 19 ans, je refuse le terme « faire son deuil » qui est oublié, celui qui est mort, au contraire je l'ai accueilli en moi, ce travail est issu de la thérapie narrative dont l'initiateur est Michael White. Alors évidemment, c'est Freud en 1917, apparemment, hein, qui aurait proposé cette expression de travail et de deuil dans un article « Deuil et mélancolie ». Et vous avez beaucoup de choses à en dire, hein, de cette expression, de cette injonction, Vinciane Després. Hein.
Alors c'est une injonction qui est devenue une espèce de prescription et de mot d'ordre, ce qui n'était pas du tout le cas quand Freud l'a prononcé. Et Jean Alouche, qui est un psychanalyste lacanien, qui est un héritier de Freud et un héritier qui décide de surenchérir sur Freud au sens de chérir encore plus, donc on ne peut pas le suspecter d'antifreudisme primaire, va dire que là, la façon dont le deuil est devenu une espèce de travail, il dit, ouais, vous devriez vous souvenir de là où on inscrivait le mot travail et l'obscénité finalement de cette théorie. Et je pense en effet qu'il y a une espèce de prescription normative dont on pourrait presque dire, alors excusez-moi d'utiliser une expression compliquée, mais qu'il s'agit de domestiquer des psychés, où on veut, et ça la sociologue Dominique Mémy le montre bien aussi, c'est que les gens sont obligés presque de protéger leur psyché des maux psychiques, oui. Et c'est donc une espèce de prescription, un peu comme quand on voit systématiquement les psychologues sur les lieux d'un drame, etc., en espérant que protéger les gens. Et je finis par me demander, et c'est là où j'accepte tout à fait l'idée qu'il y a deuil, etc., à condition que cette théorie ne s'impose pas comme une obligation et qu'elle n'insulte pas les autres façons de faire en les traitant d'illusions, d'imaginaires ou de déni de deuil. Parce qu'il me semble que parfois, il arrive que la psychologie, je dirais, affaiblisse considérablement nos capacités de métamorphose.
Et c'est la psychologue qui parle.
Et c'est la psychologue qui parle, oui, qui se révolte même parfois. Ouais. Oui.
Gaëlle Clavandier.
On est rentré dans un processus de médicalisation où, si le deuil n'est pas fait dans un temps imparti relativement court, sur les préconisations de l'OMS, on est à 2 mois, sachant que traditionnellement, on était sur 2-5 ans.
Comment on peut quantifier le deuil ?
Alors, mais c'est, en fait, c'est aussi pour que les professionnels qui interviennent auprès des personnes en deuil, puissent eux-mêmes, elles-mêmes...
Savoir à quel moment tirer la sonnette d'alarme.
Exactement, et médicaliser, et prescrire, et notamment des anxiolytiques. Louis-Vincent Thomas disait que les rituels funéraires étaient un fabuleux anxiolytique, enfin, ça participait de cette sécurisation, et c'est vrai que en l'absence, ou en tout cas face à des rituels funéraires qui sont de notre ordre, c'est vrai qu'on va aujourd'hui prendre des médicaments et considérer les deuils pathologiques au bout de 2 mois, ce qui est extrêmement court, puisque on voit, et les anthropologues l'ont très bien montré, que la durée du deuil était l'égale de la phase de décomposition des corps.
C'est-à-dire plusieurs années ?
Plusieurs années, 2-5 ans environ.
Oui. Donc évidemment, on ne nous laisse plus le temps aujourd'hui, non, et on nous considère comme malades quasiment.
Très rapidement.
Si le deuil se poursuit.
Tout à fait. Et je trouve qu'on a un indicateur de cela, c'est sur les congés qui sont donnés aux salariés.
Oui.
Et moi, je le mets au regard du mariage, par exemple, qui est un événement.
Combien de jours
heureux.
Pour le mariage?
4 jours.
Et pour le deuil?
2, quand il s'agit d'un conjoint et d'un enfant.
Ouais.
Quand il s'agit d'un parent, où les grands-parents n'existent même pas, sachant que les générations succèdent, c'est tout à fait étonnant, et ça montre la place que l'on accorde aujourd'hui, ou le peu de place que l'on accorde aux questions funéraires et la perte du proche.
Et justement, ce livre, c'est toute la question de l'accueil du mort, hein, et non plus justement la disparition du mort après cette période de deuil au bonheur des morts, publié aux éditions de La Découverte. On en rediscute ensemble dans un instant avec beaucoup de messages pour vous sur France Inter.
My soul is a weary and beaten down from all my misery. Oh Lord, who will comfort me? My soul is a weary and beaten down from all my misery. Oh Lord. Gotta hold on my heart that keeps me bound when the whole wide world is free. Yeah, oh Lord, who will comfort me? Gotta hold on my heart that keeps me bound when the whole wide world is free. Yeah, oh Lord, who will comfort me?
Comfort Me avec la voix de Mélodie Gardot à l'instant sur France Inter. Au bonheur des morts, Vinciane Després, donc cet ouvrage. Et puis également à nos côtés, la sociologue Gaëlle Clavandier. La sociologie de la mort, c'est un livre que vous aviez sorti, Charmant Collin, en 2009. Et toujours pour nous accompagner, La Chambre Verte de François Truffaut.
Nos morts. Nos pauvres morts. Ils réclament si peu qu'ils obtiennent encore moins. Vous me rencontrerez plus souvent ici même.
Je crois que je n'aime plus les cimetières. Ce sont des prisons froides. On y enferme les morts comme pour se débarrasser d'eux sous la terre glacée.
Non, je ne trouve pas. Ils sont partout chez eux, sous la terre. Vous savez que les Chinois se sont longtemps opposés à la construction des chemins de fer. Ils ne pouvaient supporter qu'on bouleverse la terre des morts. Je crois que si tant de gens les honoraient de cette façon, c'est qu'ils les craignaient. Mais nous, nous les aimons. N'est-ce pas?
Oui, vous avez raison, nous les aimons.
Voilà, toujours la voix de Nathalie Baye et de François Truffaut avec beaucoup de messages et de témoignages d'auditeurs justement pour faire écho à cet extrait. Par exemple, Harry nous dit ceci, le lieu d'enterrement est aujourd'hui très culturel, un catholique sera enterré le plus souvent dans son fief familial, un protestant lui sera à l'endroit de son décès. Ce lieu d'enterrement a-t-il un effet sur le deuil, Gaëlle Clavandier?
Le lieu d'enterrement a des, enfin, le lieu du décès a des conséquences sur le lieu d'enterrement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être inhumé là où on le souhaite. Hein, en règle générale, on est inhumé sur le lieu de décès. Donc, c'est un petit peu compliqué pour un certain nombre de familles si elles n'ont pas de concession. Le lieu d'enterrement a des conséquences sur le deuil, pas forcément, je réfléchis. C'est l'absence d'enterrement qui peut avoir des conséquences sur le deuil, notamment en cas de disparition, par exemple. Alors après, la question se pose pour la crémation, et notamment sur la dispersion des cendres. Il y a beaucoup de débats aujourd'hui sur la question de la dispersion des cendres et sur le fait qu'une dispersion dans un jardin privatif, ce qui est désormais interdit, ou en pleine nature, pourrait entraver les conditions du deuil. Et je suis assez d'accord pour dire que il y a une grande diversité d'arrangements et qu'il faut faire confiance aussi aux personnes dans leurs choix. Certes, peut-être que ces choix ne sont pas les plus idéaux au moment où on les fait, mais on peut aussi être sur des trajectoires personnelles et que ça fasse sens pour ces personnes-là. Mais pour le coup, là, il y a une réglementation aussi à respecter.
Jacques demande si en cas de mort violente, la vision du corps aide à faire le deuil, justement, ou est-ce qu'il faut garder plutôt une belle image du défunt?
Alors, la question des morts violentes, là aussi on est sur des préconisations contemporaines qui tendent à dire qu'il faudrait voir une partie du corps, que ce soit une main, un visage, etc. Là aussi, on peut être très partagé parce que certes, on a des soins de reconstruction, on a des soins de conservation qui permettent de montrer le corps. Je crois que pour les personnes, ce qui est important, c'est de savoir effectivement que la personne n'est plus là et qu'elle est décédée. On a une grande difficulté aujourd'hui, notamment, c'est un terrain sur lequel je travaille, sur les catastrophes aériennes, quand on est face à des polyfragmentations, où là, on ne peut absolument pas montrer les corps. Mais je crois que l'idée, c'est à la fois que le corps soit identifié et qu'on sache que la personne soit défunte. Et après, le problème qui va se poser, c'est sur les fragments qui ne sont pas identifiés. Quelle est leur trajectoire?
Il y aurait peut-être quelque chose qui serait de l'ordre de...
Bastien Després.
Peut-être que c'est ici, alors là j'improvise complètement, mais où je me dis, tiens, mais pourquoi ne retient-on pas quelque chose des reliques dans ce cas-ci? Qui était quand même la façon dont les corps se dispersaient et étaient partagés. Et je me dis peut-être que c'est peut-être recherché dans les anciennes pratiques et dans les anciennes façons de cultiver les corps morts, qu'on retrouverait peut-être des possibilités imaginatives par rapport à ces
corps. C'est ce qui se pratique sur la crémation avec des médaillons qui peuvent...
Alors justement, oui, parce que c'est bien ce que vous dites, Vincent Després, les morts nous laissent aussi beaucoup de choses, beaucoup d'objets, et ça aide aussi énormément.
Tout à fait, ce sont des objets. Alors soit, ce qui est intéressant, c'est que j'ai remarqué parfois que des objets que laissaient les morts vont créer ce que j'appellerais des intentions rétroactives. Qu'est-ce que ce serait une intention rétroactive? C'est en fait, ma mère ou mon père me laisse ceci, je dois en faire quelque chose, qu'est-ce qu'il attend de moi de faire avec cet objet?
C'est ça.
Si, par exemple, moi j'ai gardé tous les mouchoirs de mon père, vous savez, ces mouchoirs à carreaux que je n'utilisais jamais, et je les garde en me disant, il aurait souhaité que je les garde, parce qu'il y a tout quelque chose qui disparaît avec ces mouchoirs en papier qui remplacent les mouchoirs en tissu, il y a toute une culture de l'objet qui disparaît. Ouais. Et puis, qu'est-ce que j'en fais? Eh bien, je me dis, ben, mon père, peut-être qu'il souhaiterait me consoler avec ses mouchoirs. Oui. Mais ce sont des choses, et donc les objets, les bagues, et des choses où ce ne sont pas simplement des objets qu'on reçoit, ce sont des injonctions, des addictions à faire quelque chose.
Et on voit le rôle actif du mort, au fond. C'est ça aussi. Et la façon dont il peut nous rendre heureux, parce que c'est ce que vous expliquez. On dit rarement à quel point le mort, au fond, peut nous aider aussi dans ce travail de deuil.
Et on le voit, l'objet, il est à mi-chemin, parce qu'il a une dimension à la fois sacrée, parce qu'on voit ce qu'il porte, mais il y a aussi une dimension complètement profane et ça va impliquer des usages. Est-ce que les assiettes que m'a léguées ma grand-mère, m'a donné ma grand-mère de son vivant, est-ce que je les utilise? Est-ce que je prends le risque de les casser?
Tout à fait, oui.
Et c'est vrai qu'en général, ces objets ont une seconde vie. C'est-à-dire que vous parliez tout à l'heure, je crois, des chaussures. Moi, j'ai une étudiante qui me racontait comment elle n'avait pas pu assister aux funérailles de sa grand-mère parce qu'elle était aux États-Unis et elle se baladait avec son sac à main et elle parcourait le monde avec le sac à main de sa grand-mère.
Voilà. Et c'est ce que vous racontez donc, également, vous avez un autre exemple.
Mais au risque de le perdre. Ouais. Mais donc l'objet demeurait actif.
Il faut, dites-vous, écrivez-vous Vincent Després, s'autoriser cette liberté de création justement dans la relation qu'on invente avec le défunt.
Oui, tout à fait, parce que les personnes que j'ai rencontrées et qui racontaient des histoires extrêmement créatives, extrêmement intéressantes, je remarque que d'autres personnes, en fait, d'une certaine manière, il y a une espèce de cadenassage de l'imaginaire, parce que les gens ont peur d'avoir l'air fou ou de passer pour fou, ou même de se sentir... Je veux dire, ce type de relation avec les défunts est relativement disqualifié, marginalisé, ce qui fait que les gens ne peuvent pas vraiment faire une expérience, même s'ils le souhaitaient ou même si les possibilités étaient ouvertes. Quoi qu'il y en a beaucoup qui le font, mais c'est toujours problématique et les gens n'ont pas beaucoup... Enfin, je veux dire, ils ne sont pas très à l'aise pour en parler.
Jonathan nous dit ceci, on dit que le culte des morts est un signe d'humanité dans la mesure où l'on accorde de moins en moins d'importance à ce culte. Est-ce qu'on peut dire qu'on se déshumanise, nous demande Jonathan.
Alors, oui, c'est une des grandes...
On se déritualise en tout cas, hein, beaucoup.
Déshumanise, c'est-à-dire que l'homo sapiens sapiens, c'est une de ses spécificités, c'est d'enterrer ses morts. Donc, ça fait partie de la culture. Alors, une des questions que l'on peut se poser, c'est par exemple sur la durée de questions tout à fait pragmatiques, les concessions sont d'une durée beaucoup plus courte, une quinzaine d'années en France. Certes, il y a un problème de gestion de l'espace, mais c'est vrai que la place que l'on accorde aux morts est de plus en plus réduite dans le temps. Donc peut-être un rétrécissement de la culture, ou tout au moins, je ne parlerai pas d'appauvrissement, parce qu'on voit qu'il y a plein d'arrangements qui ne sont pas forcément visibles, mais qui demeurent présents.
Et puis ce message de Ginette, la mort de ses parents qui nous laisse en prochain sur la liste, ne nous ramène-t-elle pas notre propre mort, qui nous inciterait à effectuer un bilan sur notre vie, pas forcément flamboyant, Vincent Després.
C'est une version un peu pessimiste, je pense, et je n'ai pas beaucoup entendu cette histoire. Moi, ce qui m'a beaucoup plus intriguée, c'est que la disparition, par exemple, d'un parent, était l'occasion pour l'enfant de se demander comment est-ce que je peux accomplir et achever ce qu'il avait mis en route, par exemple. Ah, et je crois que c'est Jean Allouche qui décrit ça merveilleusement bien, ou dans le roman La Toussaint, où on voit des propositions telles que, par exemple, un écrivain raté aurait été le brouillon de son petit-fils qui deviendra un écrivain flamboyant.
Ouais. Et plus que le travail de deuil, peut-être on pourrait parler du travail de mémoire aussi. C'est ce qui conclut votre livre avec l'histoire de Georges. Hein.
Tout à fait, c'est un travail de mémoire. C'est-à-dire que c'est un véritable travail, mais au sens non plus psychique. C'est un travail, il y a des choses à faire, il y a des actes à accomplir. Il y a une enquête à mener, par exemple, où il y a des choses à prolonger, à transmettre. Et c'est un travail de mémoire dans la mesure où notre culture, en tout cas, affirme, ou en tout cas repose sur le fait que les morts ont le désir d'être souvenus.
Merci infiniment pour votre venue dans La Tête au Carré. Vincent Després, donc au Bonheur des Morts, aux éditions de la Découverte. Et puis Gaëlle Clavandier, on peut toujours lire Sociologie de la Mort, publié en 2009, chez Armand Collin. Merci beaucoup.
Merci à vous.
À vous. Fabrice Drouel, bonjour.
Bonjour Mathieu Villard.
Affaire sensible dans quelques minutes.
Oui, avec une affaire bien sordide, Thierry Paulin, l'assassin de vieille dame. Mais vous savez, ces histoires disent aussi beaucoup de choses de la société. Donc elles sont intéressantes à ce titre-là, au-delà de l'histoire. Un neuropsychiatre, Serge Bornstein, pas n'importe lequel, puisqu'il a rencontré Thierry Paulin à plusieurs reprises, a écrit un livre intitulé « L'assassin des vieilles dames ».
À tout à l'heure.